On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Bonjour les gens, bonjour, bonjour Internet. Ça va? Bien rentré du week-end de Pâques, prêt à reprendre le boulot? Ici, c'est un peu compliqué. On irait bien se recoucher quand même un petit peu. Mais on a plein d'actu. Enfin, on a plein d'actu. On a un peu d'actu. On va pas avoir à parler. Voilà. Parce que bon, en France, on fait le week-end de 3 jours, mais ailleurs, il n'y a pas forcément le week-end de 3 jours. Donc, du coup, il y a un petit peu d'actu dont on peut parler. Voilà. Ça va? Ça va? Hello les jeunes, hello. 4 jours ici en Suisse. Oh là là, mais on veut. Bon, on veut des week-ends de... on veut des week-ends de 4 jours aussi, c'est aux consignes. Salut les gens, salut. On va parler un peu de l'actualité. Alors, je sais qu'Anthony a fait un live hier, et du coup, donc on n'aura pas toute l'actualité du week-end à parcourir, mais on va essayer de se réveiller ensemble. Comme vous voyez, que il me faut de l'énergie. Ouh. Ah, tiens, attends, c'est quel bras? C'est ce bras-là. Il y a Nvidia qui coupe mon bras en fonction du... Bah, pardon. Oui, c'est un fond vert. Enfin, c'est même pas un fond vert, du coup, c'est Nvidia qui fait ça. Vous voyez qu'avec la lumière, quand même, c'est... Le détourage est plutôt bien fait, hein, quand même. C'est assez fou, hein, de n'avoir pas du tout besoin d'un fond. Bon matin, bonjour, 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 bon matin, bonjour. Au Québec, on a 3 jours aussi. Certains cantons de Suisse, c'est même 5, hein, mais moi, je dis qu'on devrait... L'alignement européen, ça devrait être celui-là. Hein. Ça devrait être celui sur les 5 jours de congé. Voilà. Il faudrait qu'on s'inspire plus souvent des pays limitrophes. Il est 3h39 du matin au Québec, mais dis donc, il faut dormir. Faut dormir à cette heure-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, bon, là, c'est moi. Mais si je passe en partage d'écran, ça marche aussi. Et en partage d'écran plus seul, ça marche encore mieux. Et après, du coup... On va parler de l'actualité. Alors, de quoi on va parler? On va parler des pannes Apple, on va parler des derniers trucs de Elon Musk, on va aussi parler de Activision Blizzard, des derniers rebondissements d'Activision Blizzard. Est-ce que je le dénonce? J'ai envie de dénoncer Titron qui est en train de m'envoyer 15 messages d'affilée parce qu'il sait que je suis en live et qu'il y a une notification qui apparaît à chaque message, voilà, et qu'il se moque de moi. Voilà, vous pouvez dire bouh Titron dans le chat pour vous moquer de lui. Bref, on va parler d'abord d'Apple. Je vais me lancer tout de suite. Je sais pas si on fera un live directement jusqu'à 11h, ça dépendra de l'actualité. Non, panne Apple. On va parler des pannes Apple parce que en ce moment Apple fait à plein de pannes et vraiment il m'envoie plein de messages. Bref, donc il y a eu plusieurs pannes d'Apple ces dernières semaines. Il y a eu notamment fin mars, il y a eu une grosse panne de Apple Music et iCloud et l'App Store qui sont tombés en panne pendant plusieurs heures. Donc ça, c'était le 21 mars, voilà. Puis, il y a eu la panne de l'application météo. Je ne sais pas si vous avez été... Est-ce que vous avez été touché par ces pannes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des iPhones ou des iPads, etc., dans l'assistance et qui ont été touchés par ces pannes? Parce que voilà. Moi, je sais que l'application météo, effectivement, je l'ai eu. J'ai pu faire des captures d'écran du fait que la météo ne fonctionnait plus du tout. Ça a duré plusieurs jours pour l'application météo, je crois. Ça a duré un petit moment. Donc là, vraiment, ça c'était bien buggé. Et ça, c'était la semaine dernière. Et du coup, là, alors nous, en France métropolitaine, ça ne nous a pas trop concerné. Peut-être au Québec, vous l'avez subi. C'était une panne dans la nuit, là. Je vais revenir sur mon actualité de ce matin. C'était une panne dans la nuit du 10 au 11 avril pour nous. Aux États-Unis, ça les a bien touchés. Donc, il y avait une panne qui concernait, encore une fois, iCloud, Apple Music, l'App Store, etc., où vous ne pouviez tout simplement plus accéder des captures d'écran sur l'article de 9to5 Mac. Vous ne pouvez tout simplement plus accéder au service d'Apple, donc c'est quand même un petit peu problématique. Voilà, vous avez une capture d'écran, là. Unable to install Duolingo. Il y avait aussi une erreur SSL. Je ne sais pas si... Voilà, un SSL error has occurred. Nanana. Donc, vous ne pouviez juste plus accéder à vos services. Normal quoi, vous payez cher en plus chez Apple et on peut plus accéder au service. Et donc j'ai fait un article. Alors du coup oui, forcément pour nous ça nous concerne moins cette panne précisément, mais il y a un truc, il y a quand même un truc de, bah enfin qui est bizarre quoi, que le fait que ça fait quand même entre le 20 mars la semaine dernière et cette nuit, ça fait que sur les 4 dernières semaines il y a eu 3 pannes Apple quoi. ça commence à faire beaucoup. Et Apple n'est pas très clair sur les raisons de la panne. Ils ont une page dédiée, qui est ici une page de statut, une page de support voilà, qui est dédiée. Et, voilà, donc tous les services maintenant refonctionnent normalement. Mais ils précisent bien qu'il y a eu 5 pannes, dans la journée. Il y avait quand même les utilisateurs du Maryland qui ne pouvaient plus accéder à leur carte d'identité et à leur carte à leur permis de conduire. Donc c'est quand même assez problématique dans ce genre de cas. Et du coup, je me demande, on peut se demander pourquoi Apple a autant de pannes en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éléments de réponse. Mais il s'agirait peut-être un jour de commencer à corriger tout ça, à éclaircir les choses. Et puis surtout, les services Apple et les produits Apple, ça se paye aussi pour une certaine qualité de service. Et la marque est connue pour, quand on interroge les gens, pour son sens de l'optimisation. Et du coup, c'est... Qui a Apple ? On ne sait pas. Ou est-ce qu'Apple a arrêté de payer les factures ? Est-ce qu'ils n'ont plus d'argent ? Est-ce qu'Apple est pauvre ? On ne sait pas. Mais il s'agirait, pour l'instant, ça manque d'un petit exercice de transparence, je pense. Et puis surtout, il faudra voir dans les semaines à venir s'il y a encore des pannes successives comme ça, et si ça devient une habitude, quoi. 3 fois en 4 semaines, déjà une petite habitude qui s'installe, quoi. Qu'est-ce qui va bugger cette semaine, quoi. Est-ce que c'est le début de la fin pour Apple ? Est-ce qu'Apple est condamné ? Est-ce qu'Apple va mourir dans les mois à venir ? Non, peut-être pas, quand même. Mais il y a quand même des questions qui se posent, quoi. Ici, au Québec, on n'a pas encore le permis de conduire numérique. Je crois pas que ce soit le cas en France non plus. Je crois qu'en France, cette année, il y a la carte d'identité numérique qui est prévue, notamment sur Android. Il y a déjà une bêta. Je crois qu'il y a aussi une expérimentation côté iPhone, avec l'objectif de te faire intégrer la carte d'identité. Sauf que je crois que l'État français veut avoir sa propre application pour la carte d'identité, ce qui aurait évité ce genre de panne, pour le coup. Possiblement des changements qu'ils font en interne sur une future version d'iOS, mais qu'ils ne peuvent pas communiquer dessus. Tout est possible, après tout, pourquoi pas. Surtout si ça concerne l'App Store. Là, on voit quand même souvent, effectivement, que ça tourne autour de l'ancienne infrastructure d'Apple. Parce qu'Apple Music, ça tourne sur iTunes. L'App Store, ça tourne aussi sur iTunes. Il y a aussi l'Apple Store, des fois, qui était down. Tout ça, c'est un peu le même. Je pense que c'est un peu le même service derrière. C'est impossible de savoir. On pense savoir que Apple va ouvrir son App Store aux concurrents à la fin de l'année. Donc peut-être qu'il y a des. Peut-être que Drago Modo met le doigt sur quelque chose. Mais pour l'instant, pas savoir. Mais bon, on verra si on en saura plus à la prochaine panne. Heureusement que ça arrive pendant la nuit, parce que c'est quand même pas super pratique quand ton iPhone, si t'as un iPhone et que t'as la moitié des applications Apple qui fonctionnent plus, sachant qu'Apple te bloque quand tu n'utilises pas autre chose, t'empêche d'utiliser autre chose que ses services. Raison de plus, limite, ça donne encore plus d'arguments au fait d'autoriser des App Store alternatifs. Quand l'App Store est down, au moins tu peux continuer d'utiliser les autres boutiques d'applications, quoi. Sincèrement, ce serait bien de faire une application européenne sur le permis sur les papiers d'identité et le permis. Je suis assez d'accord. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire au niveau européen. PSVR 2, échec commercial ou pas, c'est un peu trop tôt pour le dire. Pardon du hors-sujet. Non, il n'y a pas de souci. Je peux faire un petit point sur le PSVR 2. Il y a eu des rapports qui montrent que on parlait d'Apple avant, qui montrerait que Sony aurait réduit la production du PSVR 2. Clairement, avec un casque à 600€, on sent que c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de rapport précis sur les ventes. C'est un peu difficile de dire là, comme ça, en un mois, que c'est un échec commercial. Mais pour l'instant, ça va être difficile de... Disons que la presse lui prédit quand même pas un avenir commercial très brillant au PSVR 2 et que pour l'instant, c'est bien parti pour confirmer cette théorie. Mais on n'est jamais à l'abri que Sony, par exemple, baisse le prix du casque ou change de stratégie ou rassure sur l'avenir ou fasse d'autres choses qui ferait que le PSVR 2 pourrait se mettre à décoller. On rappelle que, par exemple, des consoles comme la 3DS avaient très mal démarré en termes de vente et finalement ont réussi à décoller rapidement avec une baisse de prix, avec des offres. Et finalement, la 3DS est devenue un succès au fil du temps. Pareil pour la PlayStation 3, il y a d'autres exemples dans l'histoire du jeu vidéo où les débuts difficiles ne condamnent pas forcément totalement un produit. On a un gros problème sur le PlayStation VR 2, c'est l'incompatibilité avec le PC. Je suis d'accord, surtout que le PC ce week-end c'était pas trop ça en France. Le PlayStation VR 2, oui, et on peut pas le brancher à un PC pour l'instant. Les manettes sont à peine reconnues, mais il faudra attendre que des développeurs bidouillent les choses pour ajouter une compatibilité avec le PSVR 2. Pour l'instant, il y a rien de prévu chez Sony et je suis assez d'accord que c'est un gros manque parce que s'ils avaient annoncé que c'était compatible PC, moi honnêtement par exemple, je faisais peut-être partie des clients potentiels parce que ça veut dire que le casque il peut survivre à la PlayStation 5, On peut lui assurer aussi un certain catalogue de jeux grâce à Steam. Donc ça aurait été intéressant. Mais Sony, ils sont pas très intéressés par nous vendre un PSVR 2. Ils sont intéressés par nous vendre des jeux vidéo compatibles VR sur le PlayStation Store. Donc on peut aussi comprendre pourquoi ils ont bloqué cette compatibilité. Moi, je trouve ça stupide, mais commercialement, je peux comprendre pourquoi ils ont pris cette décision. Mais on verra. Je pense qu'ils vont... Pourquoi j'ai des pubs pour des roulettes industrielles. On verra ce qu'il en est. Mais ça, du coup, c'était pour Apple. Il y a pas. J'ai fait très vite parce qu'il y a pas grand chose à en dire honnêtement sur Apple, hormis qu'ils connaissent des pannes régulièrement. C'est pas trop ça, quoi. Ensuite, du coup, on a Elon Musk, notre bon vieux Elon.
Fermez un peu les onglets.
Elon Musk, encore un retournement de situation pour Twitter. Alors, j'aime pas trop faire j'aime pas trop faire des affaires qui durent. Enfin, le côté feuilletonnant de Twitter m'embête un peu, on va dire, pour dire les choses gentiment et poliment. Surtout quand c'est pour cacher. Des affaires judiciaires qu'il aurait un peu... Par exemple, quand il change l'icône de Twitter pour, à la place d'un oiseau, mettre un Dogecoin, c'est a priori peut-être aussi un petit peu pour cacher le fait qu'il y a une affaire juridique judiciaire autour du Dogecoin pile à ce moment-là. Donc, à hauteur de 258 milliards de dollars quand même, donc c'est un peu sérieux. Et donc, bref, Elon Musk, à chaque fois, il essaie de faire des rideaux de fumée avec des polémiques un peu débiles. Là, c'est une info un peu plus sérieuse, c'est le fait que la société Twitter a disparu. On l'a appris, c'est Slate qui l'a repéré, grâce à des documents juridiques, justement. Twitter Inc., donc vraiment la société, l'entreprise, n'existe plus. Ce n'est plus une entreprise. Elle a été fusionnée dans X Corp. Alors, X Corp, c'est deux choses. Déjà, c'est une société qui appartient à Elon Musk. Et ensuite, c'est deux choses. C'est d'abord... on va parler quoi, du positif ou du négatif en premier? Alors, c'est d'abord le nom que Elon Musk donne à son grand projet de super app. Alors, une super app, une super application, c'est pas une application qui est d'excellente qualité. C'est une application qui fait plein de choses. Et c'est, une inspiration de WeChat en Chine. Donc, c'est l'idée que dans votre application, vous allez pouvoir communiquer avec vos proches. Vous allez aussi pouvoir faire du paiement, vous allez aussi pouvoir faire de la navigation, plein de choses. Bref, une application qui sert à un côté couteau suisse un peu. C'est aussi ce que veut faire WhatsApp, à mon avis, en développant quelques fonctionnalités. Mais en Chine, c'est très, 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 très développé avec des applications comme Line ou comme WeChat qui font déjà plein de choses. Vous avez vraiment une application qui vous sert à la fois à faire de la communication instantanée avec vos proches, mais en même temps, vous pouvez payer vos proches, comme Lydia. Vous pouvez aussi payer en magasin, vraiment. Vous pouvez prendre les transports en commun avec l'application WeChat. Enfin, vraiment, l'application WeChat en Chine fait tout. Il y a toute votre vie dedans et elle fait vraiment plein de choses. Et là, l'idée, ce serait de faire la même chose, mais côté occidental, en s'inspirant un peu de ce qui a été fait, en reprenant peut-être un peu des idées de PayPal. Mais donc, c'est l'idée, et c'était ce qu'avait défendu Elon Musk au moment du rachat de Twitter il y a quelques mois. Mais après, bon, c'est toujours les projets d'Elon Musk, c'est toujours un petit peu, bon, il raconte plein de trucs et on sait jamais trop où ça va et où ça peut aller et s'il va pas abandonner et si c'est pas des trucs qui lui sont passés dans l'esprit là comme ça de façon un peu momentanée. Donc c'est toujours un peu difficile de se positionner, mais bon, on peut a priori. Tout ce projet-là, c'était le projet de l'application X. Et là, maintenant, Twitter Inc. n'existe plus et appartient et est fusionné dans l'entreprise X. Donc, il y a une certaine suite logique pour l'instant, donc on verra bien. On nous dit 80% de pipo pour Elon. Et un peu de ça, sachant que, voilà, donc ça, c'était, la façon dont Elon pourrait peut-être défendre cette fusion et ce changement de juridique pour Twitter. L'autre chose, et qu'il le dira peut-être moins, c'est le fait que X-Corp n'est pas basé en Californie, contrairement à Twitter, mais est basé dans le Delaware. Et le Delaware, pour les gens qui ne savent pas, donc c'est un état des États-Unis, et c'est un état qui est connu pour être très, très, très favorable aux entreprises et avoir des taxes particulièrement faibles. C'est un paradis fiscal, tout simplement. Il y a beaucoup d'États aux États-Unis qui grincent un peu des dents. C'est un sujet international du fait qu'il y a des entreprises qui aiment bien mettre une petite boîte aux lettres dans le Delaware pour éviter de payer des impôts ou des taxes et échapper à la participation collective pour nos services publics. C'est le Luxembourg, c'est l'équivalent un peu du Luxembourg ou Monaco peut-être. En tout cas, le truc c'est que le Delaware, par contre, il y a aucun, comment dire, ça donne envie à personne. Personne n'a envie de vivre. Il n'y a pas le côté, voilà, il n'y a pas le côté, comment dire, c'est pas la plage, hein, le Delaware. Hein, voilà. C'est pas l'état le plus attrayant des États-Unis en termes de culture et de météo, de climat, etc. Quoi. Si les entreprises vont s'installer là-bas, c'est pour autre chose. Mais donc, voilà. Donc, il y a plusieurs sociétés dans le Delaware qui s'appellent X-Corp, en gros, qui appartiennent à Elon Musk. Il y en a une qui sert pour gérer le cash, une autre qui sert pour gérer le nom. Enfin, bref, c'est toute une structure. Et il y a des chances, donc, que le fait de fusionner Twitter là-dedans, ce soit aussi pour cette raison-là. On sait que Twitter est déjà largement déficitaire. Donc, bon. Après, voilà, c'est surtout très juridique pour l'instant. C'est pas vraiment... Il n'y a pas d'impact direct sur Twitter, si ce n'est, j'imagine, qu'ils vont être moins soumis à certaines réglementations de la part de la Californie. Mais sinon, il n'y a pas d'implication directe pour Twitter pour l'instant, en tant qu'app ou réseau social. C'est surtout au niveau juridique que Twitter a disparu. Là aussi, je suis assez passé rapidement dessus, parce que, comme je disais, c'est un truc juridique, c'est pas un truc... C'est pas comme si l'application avait eu le droit à une nouvelle mise à jour ou quoi. Par contre, je peux en profiter quand même pour parler de mon article qui a fait beaucoup réagir sur Twitter. J'ai vu ce matin, il y a des fans qui étaient mécontents. J'ai fait un petit article sur le fait de... sur une extension dont je parlais sur Twitter. Et à chaque fois que j'en parle sur Twitter, les gens étaient plutôt contents. Donc j'ai décidé d'en faire un article sur Fandroid, sur la façon de résister à Elon Musk avec cette application indispensable. Ça s'appelle Control Panel for Twitter. C'est open source. C'est disponible pour tous les navigateurs. D'ailleurs, il faut que je prenne un peu vos commentaires. C'est disponible pour tous les navigateurs, pour l'App Store sur iPhone, iPad, iMac, pour Safari. C'est disponible pour Firefox, c'est disponible pour Edge, c'est disponible pour Chrome, pour tous les autres navigateurs type Chrome, c'est-à-dire Opera, Brave, Kiwi, etc. Donc c'est très largement disponible, c'est aussi disponible sur Firefox Beta, sur Android, et c'est une application qui permet de améliorer extraordinairement l'expérience utilisateur de Twitter.com. Il y a vraiment énormément d'options. Est-ce qu'on peut avoir des captures d'écran peut-être sur cette page ou pas? En tout cas, voilà. Donc, vous pouvez avoir une timeline séparée pour les retweets, pour vraiment avoir que sur la timeline des abonnements, avoir seulement les tweets que les gens ont écrits sans leur retweet. Vous avez la possibilité d'élargir Twitter pour vraiment prendre partie de toute la place de l'écran. Vous avez la possibilité de supprimer l'onglet For You. L'application permettait aussi de revenir à l'icône Twitter. Alors je crois que maintenant Elon Musk a supprimé son icône de Doge, de Dogecoin. Mais en tout cas pendant le moment où il y avait, du coup on pouvait revenir à l'icône Twitter grâce à cette extension. On peut changer la police d'écriture, on peut améliorer l'affichage des citations. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Tout est réglable, donc vraiment, s'il y a des choses, par exemple, que vous voulez enlever comme affichage, dont vous fichez, par exemple, l'abonnement Twitter Blue, etc., ça le fait. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un affichage pour les abonnés à Twitter Blue pour les distinguer des autres abonnés certifiés. Voilà, c'est très très complet. Twitter, l'application pour les concours et pour les pros qui parlent aux pros. Oui, j'avais fait un article à l'époque du rachat de Twitter sur le fait que Twitter, c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'on pressent ou ce qu'on dit. Parce qu'au-delà du réseau social où on peut être présent ou ne pas être présent, c'est un réseau social où sont présents les journalistes, les gros influenceurs et aussi tout ce qui est politique, État, etc. Compte de marque. Quand vous avez une panne par exemple chez Apple ou quoi, c'est sur Twitter que ça va être annoncé. Quand vous avez une décision importante au niveau de l'État qui est annoncée en urgence, c'est aussi au niveau de Twitter que c'est annoncé. Il y a le compte de l'AFP pour avoir les informations en direct. Enfin, c'est quand même c'est pas un réseau social comme les autres quoi. C'est pas Facebook, c'est quand même une application où même si nous on n'est pas présent dessus. Si on décide individuellement de ne pas aller sur Twitter, c'est une application qui reste importante dans l'écosystème politique et médiatique. Et en cela, du coup, il faut faire attention avec ce qui est fait avec cette application. Et c'est aussi pour ça que le rachat par Elon Musk peut représenter un danger démocratique. Voilà. Donc voilà. Après, bon, oui, Twitter a plein de problèmes. A aussi plein de problèmes. Alors, j'ai raté plein de commentaires depuis tout à l'heure parce que je m'égare dans mes pensées. C'est Aflopouf du coup qui tweetait, qui envoie un message pour la première fois sur le chat. Bonjour et bienvenue à toi, qui disait comme Google pour la super app, qui disait comme Google Flight, Chat, Pay. Alors oui et non, parce que justement Google c'est plein d'applications différentes. Là l'idée c'est de vraiment tout avoir réuni dans une seule application. Mais après oui, le côté on touche à tous les services, c'est un peu ça. Après il y a plein de gens qui nous ont follow, donc merci pour tous les follow. Merci à Drogomodo, Frenchy, Yu-Gi-Oh, Val, Zach Yorkmorgan, Afloupouf, Afloplouf, Eifar et Silou pour le follow, ça fait plaisir. On est pas mal maintenant à être... Je sais pas combien il y a d'abonnés sur la chaîne de Fandroid, mais c'est cool. À chaque matinale, on gagne quelques abonnés, enfin quelques follow. C'est très très cool. Et merci à Joystick, écrit de façon originale. 12 abonnés seulement. Bon. J'ai un peu retenu... Peut-être question bête, mais pourquoi le rachat de Twitter n'est pas passé par les différentes commissions ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi c'est pas passé par les différentes commissions ? J'imagine que... Enfin, en fait, les différentes commissions... c'est tombé, on va parler d'Activision Blizzard juste après. C'est une... les différentes commissions regardent essentiellement l'autorité de la concurrence et la façon de... merci Dingai ou Dingui pour la question. Comment le... Enfin, les commissions, les différentes commissions au Royaume-Uni, en Europe, etc., regardent l'état de la concurrence avant et après un rachat pour savoir si ça peut influencer, enfin si ça peut avoir un impact négatif sur le consommateur, mais ils regardent pas forcément, c'est pas leur rôle de regarder ce qui va être par exemple de la politique, de la liberté d'expression ou ce genre de choses. Donc ils vont vraiment regarder d'un point de vue purement commercial. Et avec le rachat par Twitter, enfin par Elon Musk de Twitter, il n'y a pas de question qui se posait sur un éventuel prochain monopole, sur si Facebook, par exemple, avait voulu racheter Twitter. Là, oui, là, il y aurait eu... même si Mark Zuckerberg aurait voulu racheter Twitter, je pense qu'il y aurait eu observation, quoi. Là, comme c'est Elon Musk et qu'il n'a pas de réseau social à lui et qu'il n'y a pas de question de monopole qui se pose, il n'y a pas de question vis-à-vis des consommateurs qui se posent, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être validé. Après, Afloplouf me propose aussi l'explication que ce n'est pas une fusion, juste un changement de proprio. Comme c'est effectivement un individu qui rachète, je ne sais pas si c'est aussi... ça peut répondre à cette question. J'avoue que là, ça va au-delà de mes connaissances juridiques. Mais voilà, je pense qu'il y a ces deux bonnes pistes pour essayer de réfléchir à cette question. Et du coup, on va parler... vous tendez la perche, on va parler d'Activision Blizzard, puisqu'il y a encore eu un peu de nouveau. Hop. J'ai mis à jour un vieil article parce qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à dire dessus. Donc, hop. Et j'en ai profité aussi pour mettre à jour le dossier sur le projet de rachat. Mais je crois qu'il n'a pas été remonté. J'ai pas l'impression qu'il ait été remonté. Il faudra que je le reprogramme à nouveau. Aïe, aïe, aïe. Les mises à jour d'articles, c'est pas toujours très pratique sur Fandroid pour remonter un article dans le flux. Donc la petite nouveauté, c'est Microsoft qui a une nouvelle fois signé avec un partenaire pour offrir les jeux Activision Blizzard et Xbox sur un service de cloud gaming. Cette fois, ce sera pour les clients de EE. Et si vous ne connaissez pas EE, c'est un opérateur britannique, alors je ne sais plus à qui il appartient, mais c'est un gros opérateur britannique qui s'était lancé très rapidement sur la 5G, par exemple, il y a quelques années, et puis qui avait déjà signé des partenariats avec Xbox autour du cloud gaming. Donc là, c'est un partenariat pour les toujours pareil, c'est toujours le même, c'est pas la première fois, c'est pour ça que je l'ai fait en bref. C'est le troisième ou quatrième contrat de la sorte que Microsoft signe, au moins, puisqu'ils ont signé exactement le même contrat, c'est offrir pendant 10 ans la possibilité aux autres services d'accéder aux jeux Activision Blizzard ou Xbox si le rachat va jusqu'au bout. Donc ils ont déjà signé avec Nintendo, ils ont signé avec NVIDIA, ils ont aussi signé avec Boosteroid et Ubitus, qui sont deux autres services de cloud gaming un peu moins connus. Et voilà, ils multiplient les contrats comme ça avec plusieurs partenariats faciliter l'avancement du dossier auprès des autorités, justement, puisque l'autorité britannique a décidé de ne regarder que le marché du cloud gaming. Ils ont décidé d'exclure le marché de la console de jeu. Et donc, ils veulent observer le marché du cloud gaming et voir si, dans les années à venir, si Microsoft rachète Activision Blizzard, est-ce que ça pose un danger pour ce marché et comment ce marché va-t-il évoluer? Est-ce qu'il va rester qu'une seule petite niche dans le marché du jeu vidéo, ou est-ce qu'il va devenir plus important? Toutes ces questions-là que le Royaume-Uni est en train de se poser. Et donc, ils devraient rendre leur décision très bientôt. Voyons, j'ai le calendrier. On a un dossier très, très complet sur le projet d'achat d'Activision Blizzard. Tiens, je vais vous mettre le lien. On a un dossier très complet sur le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft sur Fandroid, et dedans vous avez notamment le calendrier. Où est-il, mon calendrier? Voilà. Le 26 avril 2023, c'est la date limite pour que le Royaume-Uni donne sa décision finale. Et le 26 avril, c'est dans 2 semaines. Donc, dans les 15 prochains jours, et ils peuvent prendre, ça c'est la date limite, donc ils peuvent donner leur décision avant. Dans les 15 prochains jours, on aura la réponse enfin définitive du Royaume-Uni sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Comme les choses, enfin, en termes de tendance, là, on a un peu l'impression quand même que ça va être validé. On peut jamais savoir avant que ce soit complètement acté et annoncé, mais on a l'impression que ça va être validé par le Royaume-Uni. On a aussi l'impression que ça va être validé par la Commission européenne. Et si c'est le cas, notamment grâce à, effectivement, à tous ces contrats... En fait, la grande question, ça va être, est-ce que le Royaume-Uni est convaincu par le fait que 10 ans, ce soit suffisant pour les contrats ? Les contrats en eux-mêmes, je pense, ils sont effectivement assez convaincants. Mais la durée des contrats peut poser question. Alors peut-être que le Royaume-Uni va demander à ce que ce soit plus long que 10 ans. Parce que 10 ans, c'est à la fois long et très court dans le monde des entreprises. Donc c'est compliqué de s'engager sur plus de 10 ans pour une entreprise. Et en même temps, 10 ans, c'est une génération de consoles, donc c'est relativement court pour le jeu vidéo. Et donc on aura la réponse d'ici 2 semaines concernant le Royaume-Uni, d'ici 1 mois concernant l'Union européenne au maximum. Et il y a des chances que ce soit validé dans les 2 juridictions. Si c'est validé au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, il y a aussi des chances que ce soit validé après en Chine. Et si c'est validé dans ces 3 régions-là, là, Microsoft, ils sont bien, quoi. Ils sont bien parce qu'ils n'ont plus qu'un seul procès à gérer, c'est celui de la FTC aux États-Unis. Et ils peuvent, ils peuvent demander à la FTC de renégocier. Et si la FTC ne veut vraiment pas, ils peuvent, là, actuellement, valider le rachat s'ils veulent aux États-Unis, malgré la plainte de la FTC. Parce que la plainte de la FTC n'est pas bloquante pour le rachat. Donc, faut être vraiment très, 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 très sûr de ton dossier. Mais s'ils ont justement la validation de tous les autres pays, ils peuvent être sûrs de leur dossier, ils peuvent quand même y aller. Donc, il y a des chances pour que le rachat se fasse. Alors, la question, c'est quand ? Disons que, pour l'instant, la probabilité pour que le rachat se fasse augmente. Et il y a, on va dire qu'il y a un délai de 1 an avant que ce soit confirmé, si on va jusqu'au bout, parce que le procès, justement, entre la FTC et Microsoft, si tout suit son processus normal, ce sera en 2024. Mais il y a des chances... Si le calendrier s'accélère, là, que le Royaume-Uni, l'Union européenne et tout valide, il y a des chances que Microsoft force l'accélération du calendrier et valide assez rapidement le rachat. En fait, ce qui se passerait dans ce cas-là, c'est que Microsoft annoncerait qu'il souhaite clôturer le rachat et normalement provoquerait une réponse instantanée de la FTC qui serait de... Enfin, soit la FTC abandonne son dossier, mais ce serait une défaite terrible pour eux, soit ce qui se passerait plus probablement, c'est que la FTC serait obligée d'aller voir un juge fédéral pour demander une injonction pour empêcher Microsoft de clôturer le rachat. Et là, le procès, il démarre direct et on passe aux choses sérieuses et on évite plusieurs mois de procédure pour Microsoft, quoi. Mais tout ça, ça va se décider dans les semaines à venir. Si ça se trouve, le Royaume-Uni va bloquer le rachat. Ça se trouve, tout peut encore arriver. Donc, j'aime pas trop m'aventurer à prédire l'avenir, quoi. Tout peut encore arriver. Microsoft peut du jour au lendemain aussi annoncer qu'ils abandonnent le rachat. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, on verra. Moi, tel que je le comprends, j'ai l'impression que Microsoft est plutôt déterminé à vouloir aller jusqu'au bout avec ce rachat. Et j'ai l'impression que le vent est plutôt en train de tourner en leur faveur en ce moment. Mais on verra. On verra ce qu'il en sera. Mais du coup, c'était la petite news, la petite news du matin. Ils viennent juste d'annoncer la signature, hein, de ce nouveau contrat. Et on comprend, enfin, c'est EE, du coup, c'est un opérateur britannique. Donc on comprend que vraiment, ils visent très spécifiquement... avec ce genre de contrat, l'autorité britannique. Et on voit aussi, moi ça m'a évoqué aussi la différence de stratégie entre la FTC et le Royaume-Uni, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, en bloquant pas directement le rachat, mais en demandant une évaluation approfondie, en travaillant vraiment le sujet, et en posant des reproches plutôt justifiés à Microsoft, ils ont réussi à obtenir pour le Royaume-Uni, l'État britannique a réussi à obtenir de la part de Microsoft la signature de contrats avec ses concurrents sur un certain nombre de sujets. Alors, ces contrats peuvent ne pas être parfaits, mais c'est grâce à la CMA au Royaume-Uni que Microsoft a signé avec EE, avec d'autres partenaires. Si les autorités n'avaient pas été aussi regardantes, ce ne serait pas arrivé. Donc, elles sont parfaitement dans leur travail et dans leur rôle de protection du consommateur britannique. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que le job a été fait des deux côtés, quoi. Avec une enquête approfondie et appropriée, avec des bonnes remarques, et tout ça allait dans le bon sens, quoi. Là où la FTC, en prenant de court les autres autorités et en se jetant dans un procès comme ça directement, Pour l'instant, n'a pas obtenu grand-chose aux États-Unis en termes de compromis de la part de Microsoft. Est-ce qu'on a eu des nouvelles ? On a eu des nouvelles de la plainte des joueurs aux États-Unis ? Alors, je suis moins ce procès-là parce que c'est un procès qui me semble un peu moins pertinent. L'affaire suit son cours. Je crois qu'il y a effectivement eu du nouveau ce week-end. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'on avait appris ? Je ne sais plus ce qu'on a appris, mais oui, il y a du nouveau régulièrement. Il y a un groupe de joueurs aux États-Unis et surtout un groupe d'avocats qui a décidé aussi de porter plainte contre Microsoft pour essayer de bloquer ce rachat. Mais le dossier n'est pas forcément très solide. On verra ce que ça donne. J'avoue que ça se trouve c'est peut-être ça qui va réussir à faire bloquer le rachat. Mais pour l'instant, ça me paraît un peu prématuré. Donc on verra. On verra ce qu'il en sera. Alors, ça c'était pour le cloud et pour Microsoft et Activision Blizzard. Et on verra. Moi, alors très très personnellement, je vais retirer ma casquette de journaliste. J'avoue que si Diablo 4 pouvait sortir dans le Game Pass in extremis grâce à un rachat validé, je suis pas totalement contre. mais ça c'est très très personnel. C'est pas. Ça n'a rien à voir avec le rachat et je veux pas que le rachat il soit validé juste pour ça. Faut que les autorités jouent leur rôle et faut que le rachat soit validé que s'il est validable. Mais voilà. Mais si Diablo 4 pouvait sortir directement dans le Game Pass, on serait pas triste, quoi. On serait pas triste. Ça nous dérangerait pas trop. Ce serait pas un mal. Alors, est-ce que le rachat pourrait être validé? Alors, du coup, Diablo 4, c'est en juin. Est-ce que le rachat pourrait être validé d'ici juin? Encore une fois, tout est possible. Ça paraît très, très optimiste parce que normalement, le procès aux États-Unis, il ouvre que en juillet. Mais encore une fois, tout pourrait s'accélérer selon les décisions d'un tel ou d'un tel. Donc, on verra. Juin, ça me paraît quand même difficile parce que c'est vraiment, ça va être ric-rac hein, pour un mois de juin. Mais bon. Si c'est encore pour voir un jeu en 3D ISO, oh là là, enfin. Non, mais j'ai participé à la bêta de Diablo 4 et j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Je le confesse, j'ai passé un bon moment sur cette bêta. Et il faudra que je raconte. Je sais pas si je l'ai déjà raconté en live, et en tout cas, il va falloir que j'en fasse un article. Le fait que l'expérience de Diablo 4 en bêta, ça a été vraiment une sorte de j'ai ouvert les yeux sur pas mal de fonctionnalités modernes du jeu vidéo qui ont toutes fonctionné ensemble et c'était très très satisfaisant. Pour la bêta de Diablo 4, j'étais chez un ami et on a fait la bêta sur sa PlayStation 5. Et en fait, pour pouvoir créer mon personnage, mais que le personnage soit bien associé à mon compte, j'ai pu déjà ajouter mon profil PlayStation directement sur sa PS5 avec une application. Et ensuite, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, donc je pense que j'ai déjà raconté, donc je vais faire bref. J'ai pu, avec l'application PlayStation depuis mon téléphone, j'ai pu ajouter rapidement mon compte sur sa PlayStation de façon éphémère. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fini notre partie, mon compte a disparu de sa PlayStation. Et après, j'ai pu associer mon compte Battle.net avec la PlayStation, pareil, toujours depuis l'application sur mon téléphone, ce qui me permet d'éviter de taper des mots de passe à rallonge. Et tout ça s'est fait de façon très rapide et de façon très fluide dans l'expérience. J'ai jamais eu à taper mon mot de passe et pourtant j'ai réussi à créer un personnage sur la console d'une autre personne qui soit bien synchronisé à la fois avec mon compte PlayStation et mon compte Battle.net. Et en plus, on a pu jouer à la bêta à deux sur la même télé du coup avec sa PS5 tout en jouant à plusieurs avec d'autres potes qui étaient sur d'autres plateformes, donc avec du crossplay. Et ces autres personnes étaient sur Discord et on a pu rejoindre Discord via la PlayStation. Lui jouait sur Discord directement avec le Discord de la PlayStation. Moi, j'avais le Discord de mon smartphone et tout ça fonctionnait parfaitement ensemble. Enfin, c'était assez magique pour le coup. Téléphone, PC, console qui se synchronisent correctement, qui fonctionnent correctement, jamais de taper de mot de passe, quelques clics à chaque fois. Enfin, vraiment, c'était magique. Et quand j'ai fini la session et que j'ai pu retourner chez moi et faire d'autres parties de Diablo 4, j'ai pu en faire sur PC, j'ai pu en faire sur ma Xbox. Et à chaque fois, je retrouvais mes personnages, je retrouvais mon expérience et tout se synchronisait parfaitement. Donc vraiment, petit avant-goût du futur entre le cross-play, la cross-progression, tout ça. Vraiment, ça marchait vraiment, vraiment très bien. Discord qui fonctionne maintenant sur à peu près toutes les consoles sauf la Switch. Vraiment assez bluffant hein, quand même de pouvoir faire tout ça sans trop se poser de questions et que juste ça fonctionne quoi. Donc c'était vraiment très très cool. Voilà, c'était le petit retour d'expérience Diablo et le futur du jeu vidéo. Je trouvais ça très cool. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette matinale. Non, peut-être pas, on va rester encore un petit peu quand même. Mais j'ai déjà écoulé mes sujets. Il n'y a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent. Je voulais parler un petit peu. Tant qu'on était sur le gaming, on va parler un petit peu de rétro gaming. Puisque il y avait depuis quelques années, bah depuis le lancement des, enfin en fait de, ça remonte même au Xbox One, mais depuis le lancement des Xbox Series, il y avait la possibilité plus ou moins discrète d'installer des émulateurs sur console Xbox. Alors on va clarifier immédiatement le fait qu'on parle ici juste des émulateurs et que les émulateurs sont légaux. Ce que vous faites après avec les émulateurs, ça ne nous regarde pas, on vous laisse tranquille, mais nous on n'en parlera pas. Mais apparemment, il y a peut-être moyen peut-être de faire des choses illégales avec les émulateurs. En tout cas, Microsoft a décidé de serrer la vis après plusieurs années et a bloqué. Donc c'est impossible de lancer le jeu. Voilà, non seulement ils ont retiré les applications d'émulation de leur store, mais en plus, on ne peut plus les lancer. Donc c'est vraiment bloqué de chez bloqué. En tout cas, pour la version, on va dire, à retail, c'est-à-dire le côté grand public, il y a peut-être encore, je crois, que par des moyens détournés, grâce notamment avec le mode développeur, possibilité de contourner encore des choses. Ça marcherait aussi en mode dev, voilà, c'est ça. Le mode développeur est assez contraignant parce qu'il demande de redémarrer sans cesse la console, spécifiquement dans ce mode-là. Il y a un certain nombre de contraintes, il y a un espace de stockage dédié qu'il faut lui dédier justement. Donc ça peut être assez contraignant. Là où sur le mode retail c'était quand même assez pratique. C'est payant aussi le mode dev, oui, non mais voilà, il y a quelques contraintes. Donc ils ont bloqué le truc, on ne sait pas exactement pourquoi ils ont bloqué la chose. On imagine que c'est des problèmes vis-à-vis de Nintendo et Sony puisqu'il était possible d'émuler notamment la PlayStation et la GameCube. Moi j'ai eu un autre son de cloche, ça c'est la théorie la plus probable, enfin la plus, comment dire, la plus mise en avant. Qui est celle du blocage par Nintendo, notamment, qui est très regardant sur son offre légale. En plus, Nintendo, maintenant, a une offre de rétro gaming, justement, avec son abonnement. Donc, techniquement, il y a des jeux auxquels on pouvait avoir accès via l'émulation, de façon illégale, qui sont désormais disponibles de façon légale sur la console Nintendo. Donc, ça pose des questions. Il y a aussi des chances que juste soit Microsoft qui ait décidé de bloquer la chose, puisque depuis peu, il y avait un nouvel émulateur sur le marché côté Xbox. C'était tout simplement un émulateur de Xbox, voire même de Xbox 360, je crois. Et donc, il y avait la possibilité de jouer à des jeux Xbox et Xbox 360 depuis une Xbox Series, sans passer par le système de rétrocompatibilité officiel de la console, et donc sans passer par le Xbox Store et les jeux à acheter. Donc là, Microsoft aurait peut-être aussi serré la vis sur ce côté-là. C'est normal aussi si tu as un autre son de cloche. Dernièrement, c'était Pâques. Et oui, c'était pour ça qu'on n'a pas travaillé hier. Donc Microsoft bloque la chose. Il y a des chances. Et là, je trouve ça légitime pour le coup. Je pense que l'émulation peut avoir un sens, et le rétro gaming d'une manière générale, pour ce qui est de la, comment dire, de la pérennité du jeu vidéo et de l'accès à une certaine archive qui peut être perdue. Des fois, même les développeurs ont plus accès au code source ou au jeu d'origine, donc on utilise l'émulation pour ça. D'ailleurs, Nintendo, quand ils ont mis à disposition, je crois que c'était les Zelda en 3D de la Nintendo 64, j'ai un doute, je ne sais plus. On avait découvert, ou c'était la collection Mario, c'était peut-être la collection Mario des 30 ans. On avait découvert qu'en fait, ils utilisaient des versions émulées. C'est pareil pour la PlayStation classique. On avait découvert qu'ils utilisaient des ROM téléchargés un petit peu illégalement sur Internet. Même les constructeurs utilisaient ça, donc ça montre à quel point ça peut être pratique pour restaurer une partie de l'histoire du jeu vidéo. Après, là où je disais que je comprends, c'est que quand les constructeurs font le boulot justement de rétrocompatibilité, de mise à disposition des anciens jeux, même en les revendant, on peut pas. Là, on peut plus dire que c'est pour la beauté de l'art du jeu vidéo et de la restauration du jeu vidéo, etc. Si le jeu il est disponible dans le commerce, soit sous forme de remaster, remake, soit sous forme de d'émulation directement via un catalogue de rétro gaming comme ce que propose Nintendo, t'as plus à le proposer ou à le faire tourner de façon illégale. Là, pour le coup, je trouve, en tout cas, c'est beaucoup moins raisonnable et ça s'entend beaucoup plus que ce soit bloqué. Voilà. Après, il y a tout un débat à avoir sur le fait que là, on parle d'applications qui étaient installées sur les consoles et qui deviennent du jour au lendemain bloquées parce que Microsoft a le contrôle sur le store. Donc ça pose question sur le fait que qu'une application ne puisse plus être téléchargée depuis le store, ça s'entend. Qu'une application qui a déjà été installée, téléchargée et installée sur une console soit bloquée à distance, ça peut interroger, ça peut être soumis à débat. Donc voilà, c'était un petit focus sur le rétro gaming. C'est dommage en plus parce que pour le coup, la Xbox Series S, c'était une vraie machine d'émulation. Enfin, c'est à la fois très compacte, très performante. Enfin, c'était assez intéressant comme produit pour ça. Donc pas mal. On va passer sur cette petite info. Mais j'ai l'impression que ça. Alors ça, si je veux être parfaitement honnête, je crois que c'est une info qui va surtout intéresser les journalistes. En particulier, je pense Omar, Titouan, enfin ceux qui testent encore des smartphones chez Fandroid. C'est WhatsApp en bêta qui permet d'avoir son compte WhatsApp sur deux smartphones à la fois, ce qui va être très très pratique pour les quand on a tendance à changer de facilement de smartphone, ce qui est le cas pour les gens qui testent des smartphones. C'est toujours très très pénible de devoir transférer WhatsApp d'un smartphone à l'autre et qu'il n'y ait pas de synchronisation en ligne, de vraie bonne synchronisation en ligne. Et là, WhatsApp va proposer une application pour là les WhatsApp propose une mise à jour de l'application en bêta pour l'instant qui permet de synchroniser deux téléphones à la fois avec il y en a un qui sera considéré comme compagnon. C'est un petit peu à l'image de ce que propose l'application web ou l'application tablette, PC, etc. C'est vous scannez un QR code et hop, il se connecte à votre compte principal. Je ne sais pas si dans le chat, vous avez un usage pour cette fonctionnalité-là ou si c'est vraiment un truc de journaliste. Et je reviens, je dois m'absenter. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de scène sans ma tête. Voilà. Bon, tant pis. Vous allez avoir une webcam vide et je vais vous laisser avec cette magnifique image. Ah, vive les chats! Vive les chats qui demandent à sortir pendant 20 minutes et qui, quand on leur ouvre, décident de finalement ne pas sortir. On les aime pour ça. Bref. Tu n'utilises pas WhatsApp? Moi non plus. Enfin, j'utilise très peu WhatsApp en vrai. Je n'utilise pas tant que ça en tout cas. J'avoue que je préfère utiliser d'autres. Enfin, quand on me laisse. Je vais là où sont mes contacts, quoi. Mais à choisir, j'aimerais plutôt utiliser d'autres applications type Messenger. Ça va me servir pour avoir accès à mon WhatsApp sur mon téléphone du boulot. C'est vrai que pour les gens qui ont un téléphone pro, ça peut servir d'avoir le même WhatsApp. Sachant qu'après, en plus, il y a la petite astuce, c'est WhatsApp for Business pour les gens qui ont deux numéros, pour le coup, ça c'est mon cas. J'ai WhatsApp pour mon numéro perso et WhatsApp for Business pour mon numéro pro. Et les chats, supportables. Elle s'est vraiment barrée, quoi. Elle a juste miaulé pendant une demi-heure pour sortir. Je lui ouvre et elle s'est barrée. Voilà. Ah là là, les chats. Sacré caractère. Donc, quoi voulais-je vous parler également Alors, on peut reparler un petit peu d'Apple qui se casse la gueule sur le marché des PC. On a Apple qui a enregistré une baisse de 40% des ventes de MacBook. Ça fait mal. Alors, bon, ils sont toujours... ils sont quatrième du marché... Ils sont encore très largement en position de leader sur le marché dans la mesure où ils arrivent à être quatrième en n'ayant que des MacBooks qui coûtent plus de 1000 euros globalement ou des PC d'une manière générale qui coûtent assez cher, qui sont dans le haut du pavé. D'ailleurs, quand on prend, là c'est le marché global et international du marché des PC, mais dès qu'on restreint par exemple au marché à plus de 1000 euros ou ce genre de choses, là d'un coup Apple devient numéro 1 du marché. Donc évidemment tout le monde a baissé, hein. Là on voit moins 30% pour Lenovo, moins 24% pour HP, moins 31% pour Dell, moins 30% pour Asus, le marché global moins 29%. Il y a deux raisons pour ça. La tendance, l'inflation, etc. Le fait que les gens ont moins envie d'acheter des PC, hein, tout simplement. Et puis il y a le fait que les pourcentages d'augmentation et de baisse, c'est toujours en fonction de à quoi vous comparez. Et l'année du PC, enfin le PC a connu des années records ces dernières années, notamment grâce, par rapport au Covid. Quand les gens ont été confinés, ils se sont mis à acheter en masse du PC, souvent une deuxième machine, en plus de la machine familiale. Et donc il y a eu une énorme croissance pour le marché. Et donc là, c'est le contre-coup aussi de cette croissance. Quand on baisse de moins 29%, on revient finalement. Je pense qu'il y a une vraie baisse, mais il y a aussi un retour à la normale d'un marché qui était plus haut que ce qu'il aurait dû être normalement. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas que l'inflation et la crise qui explique tout ça. Même si ça l'explique aussi. Pour le marché du PC aussi, il y a le contre-coup de la sortie de Windows 11, qui est désormais plus une nouveauté. C'est aussi ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles le marché se réduit. Mais pour revenir à Apple, on voit quand même qu'il y a une plus forte baisse pour Apple que pour les autres. Et la raison, c'est peut-être que les gens ont moins été convaincus par le MacBook Air M2 et les fortes augmentations de prix de la part d'Apple. On rappelle que là où le MacBook Air M1 se trouve officiellement autour des 1200 euros, et en fait officieusement on peut même le trouver à autour des 1000 euros tout court en promo, Le MacBook Air M2, lui, il est à 1500 euros. Et 1500 euros pour juste... Enfin, il y a eu un changement de design et tout, mais en soi, fonctionnellement, l'appareil est resté à peu près le même. Il n'y a pas de grande révolution en termes d'usage entre le MacBook Air M1 et le MacBook Air M2. Et c'est la raison pour laquelle on lui avait mis un 7 sur 10 et qu'on avait continué de recommander le MacBook Air M1. Et j'ai l'impression qu'on a eu raison. J'ai l'impression que les chiffres nous donnent raison, en tout cas. Parce que voilà, il y a quelques freins. Voilà, bon. Après, à voir ce que Apple fera. Là, par exemple, on a récemment testé le Mac Mini, et là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est une perle, c'est un banger, comme disent les jeunes, bien sûr. Puisque c'est une machine qui coûte, j'ai plus le prix en tête, mais elle coûte quelque chose comme 700 euros, un truc dans le genre. Et donc là, pour le coup, 669 euros. Pour 669 euros, vous avez un PC de bureau ultra compact, ultra performant. Qui peut tout faire, avec des finitions exemplaires. Vous n'avez plus qu'à lui rajouter un écran et un kit clavier souris, et vous êtes tranquille, vous êtes pépère, et la machine est complète, quoi, et c'est un peu la machine que je recommanderais à n'importe qui ne veut pas faire de jeux vidéo. Vous avez tout dedans, tiens, photo de mon chat. Vous avez tout dedans, et les performances font que la machine marchera encore pendant des années et sera longtemps mise à jour, notamment via Apple. Voilà. Donc le Mac Mini M2, oui. Le MacBook Air M2, non, pour l'instant. On verra. D'après les rumeurs, Apple prépare déjà un MacBook Air M3 pour le mois de juin. Il serait sur un cycle de renouvellement de 1 an. Donc on verra ce que Apple proposera. A priori, il y aurait des changements plus importants avec le M3. Donc en termes de puissance et d'autonomie. On aurait, voilà, en tout cas, des plus grands changements pour le MacBook Air M3. Je vais reprendre le fil de ma conversation. Et du coup, voilà, on aurait... Il y aurait de quoi peut-être avoir eu raison d'attendre, et puis il faudra voir si la politique de prix reste la même, du coup, avec cette nouvelle machine, si elle est bien confirmée d'ici quelques semaines, mois, du coup, au mois de juin. Donc on verra du côté d'Apple ce qu'il en sera. Voilà, j'avais promis que ce serait un live plus court que les autres, parce que je dois m'en aller. Et de toute façon, on a fait à peu près le tour de l'actualité. On est sur une période un petit peu plus calme en termes d'actualité en ce moment. Je pense que les week-ends aident. 10h35, oui, je pars avec 20 minutes d'avance. Bon, mais je dois filer, car j'ai un programme chargé pour cette semaine, car j'avais pas prévu totalement le lundi férié, voilà, et que j'ai des choses à faire. Mais je vais, on va préparer un petit raid, et je vais vous rappeler qu'on est en live du lundi au vendredi entre 9h30 et 11h. Alors oui, exceptionnellement, je pars un petit peu en avance. Mais on est en live entre 9h30 et 11h. Tous les du lundi au vendredi. On a aussi une émission le jeudi en fin d'après-midi à 17h sur la chaîne de Fandroid. Donc voilà, du lundi au vendredi, on vous résume l'actualité tous les matins. Et puis on se pose des questions, on débat, on regarde un petit peu les derniers tests, etc. Et puis après, on a notre émission hebdo le jeudi après-midi, où on débrief des plus gros dossiers, et on est plusieurs autour du plateau. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un live Alors, je ne suis pas dans le rendez-vous tech ce midi, mais effectivement, il y a le rendez-vous tech ce midi sur Twitch. Et vers qui on va vous emmener? Une bonne question. J'ai bien quelques idées, mais je ne vois personne. Mais alors, il n'y a personne en live. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben, je crois qu'on ne fera pas de raid cette fois. Ouais, on va pas faire de raid cette fois, décidément. Je vais vous laisser libre comme l'air. Et moi, je vais devoir filer. Je vais repasser en... Donc voilà, merci encore de nous avoir accompagnés, d'avoir été là, de nous avoir follow. Merci pour tous les derniers follow. Merci d'être là tous les matins, de discuter avec nous. Samuel Etienne, il a pas besoin de nous. On a fait quelques raids, mais il a plus vraiment besoin de nous, le bon Samuel Etienne. J'essaie de faire des raids vers des chaînes un peu plus petites. Mais oui, allez, allons-y. Faisons un raid. En plus, il est là depuis une heure. Allez, je vais vous emmener chez Samuel Etienne. /, raid. Hop. Et vous lui dites bonjour de ma part et de Fandroid. Voilà. Et vous le corrigez s'il prononce mal le. s'il prononce mal Fandroid. Voilà. Bon, allez. Moi, je vous dis à bientôt. Et vous n'oubliez pas que voilà, dès demain, vous avez encore un rendez-vous pour une matinale. Demain, qui sait, je crois que c'est Titouan. Jeudi, c'est Geoffroy. Vendredi, je sais plus. Et jeudi après-midi, du coup, vous avez rendez-vous pour l'hebdo. Et normalement, je serai dedans, à mon avis. Voilà. Unlock, votre rendez-vous hebdo sur Fandroid à 17h sur Twitch. Voilà. Bonne journée, amusez-vous bien, bonne semaine, bon courage. Ciao.